بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الشفاء الإسلام نغمس الله عز وجل qui nous donne la possibilité de reprendre donc le programme de tafsir après une interruption de plusieurs semaines pour différentes raisons. Et donc, Inch'Allah, nous allons essayer d'avancer un peu dans la sourate al-Tariq. Et nous rappelons qu'au début, on avait vu les versets qui parlent de la création des cieux et des étoiles. Quand Allah Ta'ala fait le qasam, Allah Ta'ala jure par le ciel, Allah Ta'ala jure également par ce fameux An-Najm al-Thaqib. Et on avait vu la relation entre ces choses-là. On avait expliqué que les étoiles, parmi les objectifs de la création des étoiles également, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala chasse les shayatines qui essaient d'accéder au ciel pour obtenir des informations afin de les rapporter aux devins, aux sorciers, aux marabouts, aux personnes qui disent la bonne aventure. On avait vu également dans une deuxième partie que in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz, il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien, que Allah azza wa jal a créé différentes catégories de malaïka, différents catégorie d'anges. Il y a des anges qui ont pour but de protéger l'être humain contre les choses qui ne lui sont pas destinées. Là, le verset parle des anges qui ont été créés par Allah Azza wa Jal pour accompagner chaque être humain, homme comme dame, dans le but de prendre note de chaque action que cette personne va faire, de chaque parole qu'elle va prononcer, et même de savoir ce qu'il y a dans le cœur de cette personne, l'intention de faire une bonne action ou l'intention de faire un péché. Et on avait vu que lorsqu'un musulman a l'intention de faire une bonne action et qu'il n'arrive pas à le faire, Allah Ta'ala ordonne aux anges d'inscrire quand même la bonne action. Et on avait vu également que lorsque cette personne accomplit la bonne action, Allah Ta'ala ordonne aux anges d'écrire l'équivalent de 10 fois la bonne action. Donc ces anges ont été créés par Allah dans le but de prendre note de tout ce qu'on va faire, de tous nos faits, actes, gestes et paroles, afin de les garder dans un livre. Hein. Et ce livre-là nous sera remis, ce qu'on appelle As-Suhuf, les livrets nous seront remis le jour de la résurrection. Et chaque personne recevra son livret en fonction de son niveau de foi et en fonction des actions qu'il accomplissait dans ce dunya. Dans une troisième partie, on va essayer de se rapprocher un petit peu, Inch'Allah. Il y aura plus de baraka, Inch'Allah. Dans une troisième partie, on avait vu فَيَنْظُرِ الْإِلْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. Allah Ta'ala appelle l'être humain à réfléchir sur ses origines. De quoi nous avons été créés? Nous voyons des gens qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Nous voyons d'autres qui osent proclamer qu'il n'y a pas de Dieu, que ce monde existe d'une manière naturelle, qu'il y a eu tel événement chimique, physique, je ne sais quoi. Et ne serait-ce qu'un musulman, on va rester dans un cas beaucoup plus accessible, le musulman qui désobéit délibérément à Allah Azza wa Jal, ben on doit le rappeler, ô musulman, rappelle-toi de quoi tu as été créé. Allah Ta'ala t'a créé de rien, et rappelle-toi de l'énormité de la création d'Allah Azza wa Jal, comment à partir d'une goutte, d'un liquide qui nous le considérons comme impur. Si vous avez une goutte de sperme sur vous, sur vos vêtements, vous ne pouvez pas faire la salat. Il faut le nettoyer, c'est considéré comme une impureté. Allah Ta'ala t'a créé de cette goutte qui est impure. Et cette goutte qui est extrêmement fragile, hein, cette matière, si on le laisse plusieurs secondes aller à libre à température ambiante, les formes de vie possibles dedans meurent. C'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose de volatile, et à partir de ça, Allah Ta'ala nous a donné vie. Alors maintenant, comment osons-nous, alors que nous ne venons de rien, subhanallah, comment le musulman ose désobéir à Allah, délibérément dire telle chose, na'udhubillah, défier, en guillemets, défier Allah, et aller à l'encontre de ses anges. Donc on voyait également quelqu'un qui est dans la désobéissance, rappeler à cette personne d'où il vient, comment Allah l'a créé, et que là, si tu es debout, en train de faire un péché, c'est que déjà Allah t'a donné la santé, que tu puisses tenir debout sur tes deux jambes, tu as toutes tes facultés mentales et tu n'utilises pas ces facultés-là, ces bienfaits, dans le droit chemin. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont paraplégiques, qui ont des graves problèmes de santé, leur rêve serait d'avoir l'usage de leurs jambes ne serait-ce qu'une journée. Ou alors quelqu'un qui est aveugle, demande-lui qu'est-ce qu'il aimerait le plus au monde. Est-ce que tu veux 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars ou tel bienfait, une maison ou je ne sais quoi. La personne dira non, j'aimerais retrouver ma vue. Même si c'est pour une journée, la personne aimerait retrouver sa vue pour une journée pour contempler le monde, pour voir, pour profiter de ce bienfait qu'il n'a pas. Alors maintenant, si on disait à une personne que voilà, Allah te redonne la vue pour 24 heures, d'après vous, cette personne va faire quoi avec ses yeux? Assurément, il va faire en sorte d'obéir à Allah Azza wa Jal avec l'espoir qu'Allah le comblera encore un peu plus de temps de ses bienfaits. Donc, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question face au péché. Nous devons être capables de nous remettre en question et de rappeler aux gens qu'Allah t'a donné telle chose, utilise ces bienfaits-là dans le droit chemin. Et quand on rappelle à un musulman de quoi tu as été créé, il faut qu'il comprenne également où est ta destination. Tu as été créé à partir de quelque chose, une goutte impure, mais n'oublie pas que ton corps, après la mort, redevient impur. Un corps qui est enterré commence à pourrir, commence à gonfler, à un tel point que si un mari aime beaucoup, beaucoup sa femme, comme c'est le cas de chaque mari ici, il a vécu 50 ans avec cette femme, avec son épouse, au moment de mourir, assurément il est triste, c'est une catastrophe pour lui que de perdre sa femme. Si on dit à ce mari-là, tu gardes ta femme chez toi, tu gardes son corps dans ta chambre, d'accord? Autant que tu l'aimais, tu le gardes dans ta chambre. Personne n'acceptera, parce que nous savons pertinemment que lorsque l'âme quitte le corps, lorsqu'il n'y a plus de sang qui circule, lorsque les organes ne sont plus irrigués, qu'est-ce qui se passe? Le corps se décompose, ça sent mauvais, ça gonfle, etc. Ça éclate, il y a les matières qui sortent, personne ne veut plus. D'ailleurs, on aurait même peur de dormir à côté d'un mort. Avant même qu'il y a tel phénomène, il est en train de se décomposer. Si on met, parfois il y a des médicaments, ça, il y a des produits chimiques qu'on met pour que le corps ne se décompose pas tout de suite. Alors, faites expérience, enfin, j'espère que c'est sordide ce que je dis, c'est sadique même, d'accord? Imaginez quelqu'un qui est mort, un homme perd son épouse après 50 ans de mariage, dit voilà, on injecte tel produit et le corps de ta femme restera intact pendant une semaine. Donc, garde ta femme dans ton lit et il n'y aura pas de deuil, rien du tout. Assurément, le bouc a peur. On a peur, c'est un mort. Il ne fait plus partie du monde des vivants. C'est un corps inanimé, on ne sait pas. Ça, c'est une réalité de la vie. Donc, rappelez aux pécheurs également d'où tu viens et quelle sera ta destination. Et ta destination, quand on te met 7 pieds sous terre, alors là, ce n'est plus les plaisirs de ce monde que tu vas rechercher. Ce n'est plus la compagnie de tes amis qui t'apporteront quelconque profit. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas la considération que les gens avaient pour toi. Ce n'est pas le virement bancaire que tu avais tous les mois avec ton patron, 2, 3, 4, 5 000 euros. Toutes ces choses-là, tu étais profitable jusqu'à ce que tu respires. Tant que tu faisais partie du monde des vivants, ces choses-là, tu étais profitable. Quand on a franchi la limite, le premier pas a été fait avec la visite de l'ange de la mort et qu'il te ramène de gré ou de force dans le monde de l'invisible, alors tout ce que tu as pu faire de ce monde comme chose mondaine, tout cela, c'est du passé, c'est derrière toi. En tout cas, ça ne te sera pas profitable. Ça te posera des problèmes, certainement, mais en tout cas, ça ne t'apportera aucune solution par rapport aux questions qu'on te pose dans la tombe, par rapport au châtiment qu'il y a de la tombe. Et vous savez, c'est des paroles très simples, tout ça. Mais ça, c'est les rappels essentiels. Parfois, je ne dis pas qu'on se perd, mais parfois, on va dans des détails. On parle de masla, de choses très précises, de choses très techniques, mais on oublie d'où je viens et où je vais aller. C'est tout. Il suffit de se garder à l'esprit comment Allah nous a créés, de quoi Allah nous a créés. Et si là je suis debout ou assis en train de parler, c'est qu'Allah m'a donné des choses, Allah m'a donné des bienfaits. Et je parle pour moi premier, qu'Allah me pardonne moi-même, comment ingrat je serais que d'utiliser ces bienfaits-là dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première étape, d'où je viens. Deuxième étape, qu'est-ce qu'Allah m'a donné pour pouvoir profiter du monde maintenant. Et troisième rappel qu'on fait à un pécheur, à quelqu'un qui s'égare, n'oublie pas où tu iras après que l'ange de la mort t'aura rendu visite. Il n'y a pas 50 solutions sous la tombe. Hein. Soit on fait partie des gens heureux, soit on fait partie des gens malheureux. Depuis Adam a.s. jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la dernière personne qui est morte il y a quelques secondes, il y a toujours eu la même destination. Les anges viennent, soit les personnes répondent aux questions, soit n'arrivent pas à répondre aux questions. Soit la tombe est un jardin du paradis, soit la tombe est un trou parmi les trous de l'enfer. Le hadith dit bien que la tombe est un jardin du paradis ou un trou de l'enfer. Le hadith ne propose pas une troisième alternative. Je ne peux pas me dire que bon, j'ai fait des erreurs, mais j'ai fait de bonnes actions, on verra et tout. Non, c'est soit c'est ok, soit ça ne va pas. Donc à nous de bien comprendre, la troisième étape doit nous interpeller. N'oublie pas quelle sera ta destination. Donc ça c'était le troisième programme qu'on avait fait dans Sourate Al-Tariq. فَلْيَنْظُرْ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ سَنْ إِسْبِيكَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Ça rejoint ce qu'on vient de rappeler. Quatrième étape qu'on avait fait dans Sourate Al-Tariq, je crois qu'on avait fait, إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. Allah essaie d'être capable de le ressusciter. Et يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Alors là, on avait expliqué également les principes de la résurrection. Expliqué dernièrement à Montreuil, c'est des paroles un peu dures, hein, qu'on a peut-être pu réfléchir avant de dire de manière aussi difficile, aussi pertinente que ça. Il y a un gros péché de nos jours qui est en train de pourrir la vie mondaine et la vie spirituelle de beaucoup de musulmans, c'est le recours à la sorcellerie. Le recours à la sorcellerie. Mon voisin a une promotion, il a eu tel avantage, tel bienfait, je suis jaloux. Je ne peux pas manifester ma jalousie. Déjà, si je suis jaloux, c'est que je ne crois pas au destin. Je ne crois pas que même si j'aurais fait le maximum pour l'en empêcher, si c'était écrit dans son destin, il l'aurait eu. Déjà, il y a un manquement de mon iman. Si je suis jaloux, c'est que je ne crois pas au taqdir comme je devrais le croire. Bon. Une personne veut se venger de quelqu'un, d'accord ? Et il a recours à ce genre de méthode. Méthode qui existe, méthode qui est concrète. Là aussi, il y a des gens qui disent que ça existe. Ben non, notre prophète, alayhi salam, lui-même, a souffert de ce genre de problème. Alors, maintenant, analysez bien l'apport, on va dire, analysez bien le réconfort que vous apportera le fait de voir quelqu'un chuter par le biais de la sorcellerie. J'ai voulu faire du mal à Ahmed, j'ai été voir un sorcier qui lui a jeté un tel sort qu'il a divorcé avec sa femme, il a perdu la garde de ses enfants, il a perdu son travail, il a donc perdu son logement, il est, comme on dit, paumé. C'est un gars qui est cassé. Je l'ai cassé. Et donc, je ne sais pas quelles étaient les raisons, mais je voulais casser Ahmed et j'ai eu recours à ce sorcier et maintenant le gars, il est KO. À chaque fois que je le vois, je suis content. M'a bien gagné ce paquet, je me suis vengé, ça la prendra, quelles que soient les raisons. Alors, l'apport, le réconfort que vous allez avoir après avoir utilisé cette méthode et détruit la pièce, détruit ce qu'on, même si on peut l'appeler votre ennemi, comparez ça avec ce que notre prophète alayhi salatu wa salam a dit: Man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kazaba faqad kafara pardon bima unzila ala Muhammad. Celui qui va voir ce genre de personne et qui croit ce qu'il dit, cette personne a renié la révélation. Cette personne a fait le kufr, faqad kafara. Alors maintenant, par rapport à ce que vous avez eu comme réconfort en voyant la chute de votre ennemi, et lorsque Malik al-Maud vient reprendre votre âme, et qu'il reprend votre âme comme un kafir. Parce que faqad kafara bima unzila ala Muhammad. C'est pas faqad fasaq ou faqad ja'a bi ahad al-kaba'ir, il a fait un grave péché. C'est bien plus grave que ça. Et que dans la tombe, les anges vous rendent visite et vous posent des questions, mais pas comme un musulman. Ils vous posent des questions comme un kafir billah. Et ils s'approchent de vous comme si vous étiez un kafir billah. Et que le jour de Qiyama, cette personne se retrouve, lorsque la personne est ressuscitée, il se retrouve avec Qarun, avec Pharaon, avec Abu Jahl, avec les kafir billah. Et qu'il voit de l'autre côté là-bas, ou peut-être même qu'il n'aura même pas cet honneur de voir, là-bas il y a les prophètes, là-bas il y a les sahaba, là-bas il y a les tabi'in, là-bas il y a les salihin, les hommes pieux qui adoraient Allah, là-bas il y avait mon ennemi musulman comme moi, que j'ai cassé de ce monde, mais comme il a eu à vivre des difficultés, des épreuves, Allah l'a élevé, maintenant il est là-bas, à côté de l'ombre du trône d'Allah, avec les gens pieux. Moi j'ai eu ma vengeance dans ce monde, mais ma destinée c'était quoi ? La destinée d'un kafir. Donc qu'on comprenne bien la résurrection, c'est là que Yawma Tublasara et réellement les actions qu'on a faites, on en voit les conséquences cash, le jour de la résurrection, comme ce péché. Et au-delà de ça, ça c'était un exemple à part, pour revenir au texte de Surat al-Tariq, Yawma Tublasara et également ce qu'il y avait dans les cœurs seront dévoilés le jour de Qiyam. Dans ce dunya, il n'appartient à personne de juger son prochain, de juger l'intérieur de son prochain. Ça, on avait expliqué, ça c'était la dernière séance, on avait dit également qu'il y a des gens, il y en a qui se permettent de dire que oui, lui, il a tel défaut, tel machin, je vais te purifier, je vais faire telle chose. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas quels étaient les défauts des sahaba, ridwanallahi alayhim ajma'in. Le cœur, ça c'est quelque chose de fermé, ça il y a une intimité, c'est que Allah qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Le prophète ne connaissait même pas qui étaient les munafiqs, qui étaient les hypocrites parmi les sahaba, ridwanallahi alayhim ajma'in. Mais le jour de et d'ailleurs dans ce dunya, Allah nous ordonne d'établir nos relations sur ce qui est visible. Quand Osama ibn Zayd avait tué ce combattant qui à la base voulait le tuer et que Osama dans le duel a eu le dessus et qu'au moment de mourir lorsque Osama allait lui porter le coup fatal, il a dit la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre dieu à part Allah. Osama s'est dit qu'il dit ça pour se protéger et Osama l'a exécuté parce que à la base c'est lui qui voulait tuer Osama, donc c'est un duel, un combat. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ça, il était très 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 en colère. Il a répété trois fois à Osama, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Et dans d'autres versions, est-ce que tu savais ce qu'il y avait profondément dans son cœur pour le juger, pour dire qu'il a dit par hypocrisie ou parce qu'il avait peur? C'est-à-dire que dans le dunya, nous jugeons les gens par rapport à ce qui est à ce qui en dégage. Je n'ai pas à les chercher, à les fouiller, à les dire que lui il est comme ça, dans le fond c'est un hypocrite, c'est un menteur. Non. Nous on a, et puis ça ne nous regarde pas aussi, ça ne nous concerne pas, chacun doit sauver sa peau. On n'a pas à aller voir l'intérieur, essayer de comprendre l'intérieur des gens, d'accord? Mais le jour de Qiyama, les choses qui sont dedans, qui sont ancrées, ben c'est ces choses-là également qui sont mises sur le plateau. On peut avoir dans ce monde l'apparence d'un pieux serviteur de Dieu, un pieux serviteur d'Allah, mais dans mon cœur je suis un homme profondément jaloux. Il suffit que quelqu'un ait quelque chose, ah, on lui met gâte. Pourquoi il est là, pourquoi j'ai pas? Alors que je suis pieux, je suis religieux. Ça veut dire qu'il y a un gros manquement dans mon iman. Il y a un gros manquement dans ma foi. Ou alors, j'ai la panoplie du bon musulman, mais intérieurement, je suis rancunier. Quand quelqu'un me fait quelque chose, je n'oublie pas. Mémoire d'éléphant. On incrimine les éléphants, c'est même pas vrai. Et vraiment, on n'oublie pas quand quelqu'un nous fait quelque chose. Ça, c'est très mauvais aussi, ça. C'est-à-dire que ce genre de défaut, on appelle ça... Il y a les actions apparentes et puis il y a les a'mal al-quloub. Allez, on va parler de ça brièvement. Quand on parle des actions intérieures, il y a les bonnes actions intérieures, comme la confiance en Allah, la conviction en Allah, etc. Ce genre de choses, la sincérité, la dévotion, l'amour pour son prochain, le fait d'avoir toujours de bonnes pensées pour son prochain. Et c'est vraiment ça qui construit l'homme. C'est vraiment ça qui vous donne des valeurs universelles. Parce que le namaz, là, tout le monde peut le faire. Mais quand vous avez affaire à une personne de la difficulté, combien de personnes est prêt à donner de son temps, à donner un temps d'écoute, ne serait-ce, si on ne parle pas d'argent, à aller vers son prochain? Parfois, il y a des gens qui n'ont pas iman. Vous voyez des gens, moi je vois ça au centre-ville, avec leur panoplie, on ne va pas dire c'est qui, avec le petit truc là, ils vont voir les SDF, ils vont donner une tasse de café, ils vont parler et tout. Moi, je regarde ça, je dis qu'ils n'ont pas la ilaha illallah dans leur cœur, mais ils ont les qualités des sahaba, ridwanullah et alim ajma'in, qui ne laissaient jamais un être humain tomber. D'accord? Donc il y a des qualités à développer dans le cœur de chaque homme et c'est des qualités qu'on doit retrouver chez n'importe quel humain. Et il y a des péchés également, la jalousie, l'hypocrisie, etc., tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ces choses-là, nous on ne voit pas. Quand je vois Ibrahim, je vois Iqbal, je vois Ishaq, je ne vois pas ce qu'il y a comme rouille de son cœur. Mais le jour de Qiyama, attention, ce qu'il y a dedans sera mis en avant également, à même titre que les actions apparentes, et pesé dans les plateaux de la balance. Yaouma, puis il y avait une parole magnifique de, je ne sais pas si Ibn al-Qayyim, je ne sais pas si on avait cité, on ne va pas retrouver, normalement c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas, mais c'est une parole magnifique qui explique comment il est important pour un musulman de chercher à s'améliorer intérieurement, tout comme il cherche à se perfectionner dans les actions extérieures. Parce que si on ne fait pas un double cheminement, assurément on n'atteindra pas la perfection de la foi. Si je ne fais que parfaire mon jeûne du ramadan, la manière d'accomplir la salat, je vais au hajj, je lis le Coran très bien avec les lectures comme il faut, le tajwid et tout, mais que intérieurement je ne fais rien pour améliorer ce qu'il y a dans mon cœur, pour essayer de chasser ces mauvaises choses, ces impuretés qu'il y a, mais je ne progresse pas. Et les sahaba, le doigt d'Allah, le prophète Sansam, a travaillé le iman pendant les 13 premières années à Makkatul Mukarrama. Et le premier faraz, la première chose obligatoire, la première action apparente, c'était la salat qui était rendue obligatoire uniquement lors du voyage nocturne. Et tout ce temps-là, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les enseignait? Le prophète sallam formait le iman. Vous savez l'histoire du jeune garçon qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Roulam, inni wa'allimuka kalima, je t'enseigne certaines paroles, certaines choses importantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner les bases du iman du musulman, que garde toujours confiance en Allah. Quand tu as besoin de l'aide, il asta'inka fasta'in billah. Quand tu as besoin d'aide, lève tes mains et adresse-toi à ton Seigneur. Moi, quand j'ai besoin d'aide, je fais quoi, moi? Je vais voir le docteur, je vais voir Foulan, un tel, le Moulissab, etc., etc. Soit à moi, aide-moi ta vie, deux ta vie, trois ta vie, aide-moi telles affaires. Et j'oublie de lever les mains et de demander à Allah. Ça, c'est les choses de base, ça. Le prophète enseigne ça à qui? Pas à Abu Bakr Omar, enseigne ça à un enfant. C'est-à-dire que ça, c'est les bases du iman de ce niveau. Du niveau de l'enfant, dans le tarbiya, c'est ce qu'on doit inculquer. D'accord ? Il a sta'inta fasta'in billah. Wa'alam, anna dunya, jusqu'à la fin du hadith, sache que si tout ce que tu vois autour de toi, tous ces gens-là, ils veulent te détruire, ils veulent te faire du tort, mais que Allah est avec toi, ils ne pourront rien te faire. Et sache que si tous ces gens-là, tu vois les chefs de Quraysh, les riches, les nobles et tout, ils veulent te porter sur leurs épaules. Ils te garantissent la réussite. Toi, tu es notre, on va dire, notre poulain. Toi, on te cautionne à fond, on va te faire passer toutes les étapes, on va te donner un travail, on va te donner un logement, on va te faire réussir, tu vas être un homme heureux. Mais si Allah n'est pas content de toi, tu ne réussiras rien. Même si tous les makhloukas, les créatures sont là pour t'aider. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam forme le iman de cet enfant. Ça, c'est le niveau iman children, un enfant. C'est-à-dire que le musulman adulte, ça doit être des automatismes, ça. Et les situations de la vie, on les affronte comment? Pas avec les actions extérieures uniquement. D'accord? Il y a tout d'abord, Issa'inu bi sabri wa salah. Sabr, c'est quoi? Est-ce que le sabr, en faisant une nuit tahajjud, vous avez le sabr le lendemain? Non. Le sabr, ça s'apprend, ça se comprend, ce travail. Issa'inu bi sabri wa salah, un travail intérieur d'abord. Le sabr, c'est comment tu aperçois, toi, ton épreuve. Comment tu le gères? Comment tu le comprends? Comment tu l'interprètes? Quel sens tu le donnes? Et quelle va être ta réaction face à la difficulté? Une réaction qu'Allah va accepter, et si Allah t'accepte dans cette épreuve, alors là, c'est un tremplin vers le paradis. Augmentation du grade, les bonnes actions greffées, les péchés qui sont enlevés, etc., etc. Allah accorde énormément à quelqu'un qui fait preuve de patience. On commence par ce cœur qui accepte, qui accueille l'épreuve, qui accueille les difficultés. La salat est une action réelle, visible, amal zahir. Donc, je me dois de faire un effort de travailler tant l'intérieur que l'extérieur. Maintenant, travailler l'intérieur, il y a une méthodologie. On ne va pas faire n'importe quoi aussi. Tout ce que je vais faire pour me purifier intérieurement doit être conforme à la sunna. Il n'y a pas 50 solutions quand on dit « faites telle chose comme ça ». On dit « ok, montrez-moi que le prophète l'a fait, le sahaba l'ont fait et je le fais ». Je le fais tout de suite, maintenant. Je commence à le faire et je reste dessus. Maintenant, si on commence à vous dire que non, ça c'est des méthodes qui ont été apportées pour pouvoir nous aider, pour arriver à tel objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces méthodes-là, le prophète n'y avait pas pensé. Le prophète ne savait pas qu'au 21e siècle, il y aurait des gens qui vivront dans un contexte qui est tel, qu'ils auront affronté des difficultés de la vie, telle fitna, que les actions que je les ai inculquées là, ce n'est pas suffisant. Il manquait un petit truc pour les aider à revenir vers le dîn. Ça veut dire que mon yaqin tu al-yawma akmaltu lakum dinakum, il n'est pas comme il le faut. Donc, ça c'est une parenthèse, comprenons bien que moi musulman, je dois travailler l'extérieur, et ça tout le monde le fait. Là, on est le mois de Rajab. Le Ramadan arrive, on se fixe des objectifs, je vais faire telle chose, inshallah, je vais progresser dans mon salat, progresser dans mes dhikrullah, dans ma lecture du Coran, c'est parfait. Mais faisons le niyat également de faire une rétrospective, d'analyser tout ce qu'il y a comme défaut intérieurement. Je suis colérique, je suis rancunier, je suis jaloux, je manque de confiance en Allah, j'ai tendance à aller voir les gens, à oublier de retourner vers mon Créateur, j'ai des mauvaises pensées, je suis peut-être xénophobe, je suis limite raciste, j'aime pas les étrangers, j'aime pas les gens qui sont pas comme moi, je déconsidère telle personne, etc. Il y a plein de choses. Vous savez, parfois on entend même les anciens parler là, on se dit que t'es le bouvina, pas non plus du bouzlouk, mais intérieurement la police, il n'est pas comme lui là, il n'est pas, il n'est pas. On n'est pas comme lui, hein? On n'est pas le bon, hein? On n'est pas le bon modèle, d'accord? Donc on se dit qu'il y a plein de choses intérieurement aussi qu'on doit travailler. Ça c'est important. Parce que le but c'est quoi? C'est d'avoir un cœur pur. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le corps de l'être humain. Si cette partie-là elle est pure, tout deviendra ok. C'est le cœur. Si on a un cœur pur, les actions vont suivre. Si le cœur, c'est la batterie, si du cœur il y a des choses positives qui émanent, ben, vos corps, les jawarih, les membres du corps vont suivre, d'où l'importance de travailler également l'intérieur. Ensuite, ça c'était ce qu'on avait vu là, la dernière fois. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Ça c'est avec quel ayat ça? إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ. Oui, ça c'est avec يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ. Et attention ce jour-là, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. N'oubliez pas que le jour de la résurrection, le jour où il n'aura alors ni force ni secoureur. Dans ce monde, vous avez un problème, vous passez un coup de fil, quelqu'un qui est bien passé à la préfecture, l'autre est à la mairie, l'autre est au conseil régional, général, il y a toujours, hein, comme on dit en arabe, on avait expliqué le vitamine waouh. Hein, ceux qui ont habité en Arabie, monsieur, ils connaissent le vitamine. En Arabie, on dit quoi? Vitamine waouh. Waouh en arabe, les relations, les pistons en arabe, on dit waouh, c'est pas. Waouh, c'est pas. Fulan, il dit waouh, c'est pas. Quelqu'un, il a des relations. C'est parti. Ici aussi, enfin, dans toutes les sociétés, c'est comme ça. Waouh, c'est pas. C'est les relations. On appelle ça le vitamine waouh. Vous avez ça, même si vous n'avez pas de diplôme, vous avez de travail. Mais le jour de Qiyamah, il n'y a plus de vitamine waouh. Le jour de Qiyamah, c'est entre vous et Allah. Laysa baynahu wa baynahu tarjama. Il n'y a personne. Il n'y a même pas un ange qui vient et qui explique. Là, wallah, c'est une séance entre le Créateur et sa créature. Et devant le Créateur, qui c'est qui peut dire n'importe quoi? Qui c'est qui peut dire que non, ben, ma papa fait fadjal, mais t'es trop fatigué? Qui peut dire que non, ben, ma papa, tu vois, au moment, mais cause pire qu'au moment parce qu'il est sous la main. Les grandes mêmes affaires de mon vie, grand palier, il pose des questions sur madame et tout, mais on ne peut plus pour ça, ma coupe relation avec ce dunia. Vous croyez qu'Allah va accepter ça? Vous dites ça avec votre camarade, vous dites ça avec votre collègue de bureau, mais devant Allah, personne ne trouvera des mots pour justifier les péchés. Parce que si les péchés à la base étaient justifiables, excusables, Allah nous les aurait déjà pardonnés. Mais si Allah vous pose une question, nous pose une question, qu'Allah nous protège, sur un péché, c'est que le péché a traversé les filtres de Tawbah. Et tellement Allah y pardonne, que se présenter devant le tribunal d'Allah avec un péché, c'est que franchement on était gonflé. C'est qu'on est mort avec ce péché, on n'a jamais regretté, on ne s'est jamais remis en question. Ça c'est grave ça, c'est pour ça que le prophète dit que « Man nukesh al-hisab, faqad uddib » Celui à qui Allah fait munakasha, celui à qui Allah pose des questions sur un péché, c'est déjà un azab. Parce que personne ne peut soutenir le poids des questions d'Allah. Allah et qu'Allah nous protège. Quand Allah il dit à quelqu'un, pourquoi tu n'as pas fait telle chose, pourquoi tu as fait telle chose, c'est la catastrophe. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous permet d'améliorer nos actions et que lorsque nous nous présenterons devant lui, qu'on se présente et qu'Allah soit satisfait de nous. Vous savez, ça c'est le message essentiel de tous les discours religieux. Parfois, on parle de sous tel angle, on aborde le sujet de telle chose. Mais le but, c'est quoi? L'objectif principal, c'est que quand moi, musulman, je meurs et que je retourne auprès d'Allah, il faut qu'Allah soit content de moi. Basse. Si Allah était content de vous, si Allah soit content de vous, même si les humains vous critiquaient, ils étaient telle, telle chose, tout ça, c'est pas grave. Si Allah est content de moi, qui c'est qui donne le paradis? C'est pas votre patron, c'est pas tel grand personnage. Non, c'est Allah Azza wa Jal qui décide qui va au paradis, qui va en enfer. Et donc, le but, c'est quoi? C'est que je sois en paix avec moi-même, en paix avec les autres, et que dans mes relations avec Allah, tout est correct. Et quand je rencontre Allah, Azza wa Jal, Allah est content de moi. Alors, imaginez que j'ai fait beaucoup de bonnes actions. J'ai fait hajj tous les ans jusqu'à ma mort. J'avais une barbe d'un mètre cinquante. Je faisais un khatm al-Qur'an tous les trois mois. Tous les trois jours, je voulais dire. Je faisais beaucoup de bonnes actions, mais je faisais du tort aux gens. Pensez qu'Allah est satisfait de vous? Jamais de la vie. Que j'avais un comportement exécrable qui agaçait les gens. Quand le prophète me dit que la chose la plus lourde dans la balance sera al-khuluq al-hasan, le bon comportement. Ça veut dire que chacun doit se remettre en question. Personne n'est en droit de se dire que moi c'est parti. C'est comme vous allez au Hajj, vous avez votre visa, dit khalas, mon visa, personne n'empêche plus de me rendre à l'avion. C'est pas comme ça que ça se passe. Personne n'a la garantie que quand il va rencontrer Allah, tout sera ok. Il y aura des gens qu'Allah nous protège, et ça, ça ne remet pas en cause le destin. Il y a des gens qui auront passé une vie de l'obéissance d'Allah, et qu'ils auront passé toutes les étapes de l'au-delà. À la fin, quand il a l'impression qu'il a le ticket gagnant, il va rentrer au paradis, on lui fait une remarque, que tu avais fait du tort à telle personne. Et ça, ce hadith, on a déjà dit au moins 4 fois ici, alhamdulillah. Et c'est ce que le prophète avait expliqué au sahaba sous l'appellation du al-muflis. Atadrouna al-muflis. Ça a dit, al-muflis wa man la ma la la hu. Savez-vous qui est le muflis? Muflis, ça vient de fa, lam et sin, qu'on a repris en français al-foulous, l'argent. Ça a dit le prophète, le muflis, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui est endetté, qui paie ses biens. Le prophète dit non. Le mouflis, c'est celui qui, le jour de Qiyamah, se présente auprès du tribunal d'Allah avec des salats, des zakats, des hajj, tel, beaucoup, il est blindé de bonnes actions. Mais, faqad shatama hadha, wa qadafa hadha, wa, je ne sais plus les termes du hadith, wa akala mali hadha, etc. Il a beaucoup de bonnes actions, mais de ce monde, il a humilié telle personne. Il a fait du tort, il a insulté, il a accusé, il a cassé le cœur des gens. Lui, il pense qu'il est, il est sauvé, lui. Il a beaucoup de bonnes choses. Il a l'apparence extérieure et il a les actions avec. Quand quelqu'un le voit mourir, il dit ça, Jannati, ça vous glace direct. Je ne sais pas ce qu'il a fait aux gens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'Allah laisse passer quand on fait du mal à une de ses makhloukas, de ses créatures? Alors, Allah Ta'ala appellera les opprimés et les opprimés prendront de vos bonnes actions. Et si vos bonnes actions ne sont pas suffisantes pour combler les erreurs que vous avez faites, les torts que vous avez causés, Allah Ta'ala demandera aux opprimés de laisser leur péché dans le compte de l'oppresseur. Imaginez, vous n'avez jamais bu d'alcool. J'ai jamais fait d'inan de ma vie. J'ai jamais été en boîte. J'ai jamais fait telle chose. Et je vois d'un coup ce genre de péché horrible qui pue se greffer dans mon livret de Sayyi'at parce que c'est la justice d'Allah. On a fait du tort. On n'a pas demandé pardon aux gens. On n'a pas éclairci la situation. Vous croyez que vous allez entrer au paradis comme ça? Vous croyez que le paradis accepte les injustes, accepte les gens qui ont fait du tort aux autres? Là, wallah. Ce n'est pas pour rien si, dans l'autre sens, on inverse la balance. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on va terminer avec ça, que ar-rahama ou yarhamuhum ar-rahman. Ceux qui ont raham, comment peut-il traduire raham? Ceux qui ont de la compassion, de la pitié pour leur prochain, yarhamuhum ar-rahman. Hadoula. Ces gens-là, Allah auront pitié pour eux. Et ces gens-là baissent. Par opposition, mafhumukha, à la fin, on comprend quoi? Que celui qui n'a pas de pitié pour les gens, là, ben Allah n'aura pas de pitié pour lui. Le patron qui est dur avec ses employés, il y a un grand bab. Bon, ça, souvent, il y a des publicités. Enfin, on dit tout en même temps, on mélange. Hein. À l'issue d'Elimotion, si vous êtes arabophone, il y a une pub qui circulait en rapport avec le Moyen-Orient. On a entendu un peu les caricatures du patron saoudien, du patron émirati, avec les employés. Hein, on voit un jeune, enfin un jeune, on voit un employé qui vient voir son patron, et il dit que, voilà, Oustad, ma fille est à l'hôpital, je demande l'autorisation, son chef d'entreprise, donne-moi l'autorisation de sortir maintenant, je vais à l'hôpital, et voilà, je rattraperai les heures après. Le patron dit, moi je fais quoi, moi, mon entreprise, qui va s'occuper de ton travail? Je perds de l'argent à cause de toi et tout et tout. Pas de raham de son cœur. Il dit que non, tu restes là et tu continues le travail. Il dit, Allah est grand, Allah il donne le risque. Tawakkal ala Allah et tout, Allah donne à son tour des enfants et tout. Alors, tawakkal ala Allah, grand barbe, tout ce qu'il faut, mais il n'a pas eu raham pour la personne. C'est une caricature, on ne parle pas des Arabes, hein, chez les Indiens, il y a chez les Espagnols, chez les Malaisiens, peu importe. C'est une image, c'est une pub qui a été tournée en Arabie, dans les pays, peut-être pas en Arabie, dans le Golfe, pour que les gens comprennent. Et puis à la fin, on vous montre le hadith, ar-rahama, yarhamuhum ar-rahman. D'accord? Pour qu'on comprenne que, attention, ce n'est pas tout que d'avoir l'aspect extérieur, l'homme pieux, la panoplie du bouzlou, comme on disait, la panoplie du salih. Pas salih, ah ouais, bon. La panoplie de l'homme pieux. Il faut avoir le cœur, parce que si on a le cœur, Allah aura pitié de nous. Mais si on est dur avec les gens, on casse les gens, on les juge, point par point, on ne laisse rien passer, attention, Allah Ta'ala risque d'agir de la même manière avec nous. Et quand le Coran a dit, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ, c'est plus une version en tête, وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا, je ne sais pas si, excusez-moi, si c'est ظَلَمُوا أَوْ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ. En ce sens, on va revoir, on n'a pas le droit de citer le Coran bil-ma'na, le sens du verset, c'est Allah, on pourrait dire ça comme ça, c'est Allah agissait avec nous conformément à chaque action qu'on accomplissait, il n'y aurait plus une créature sur le dunya. Si je fais un péché, demain Fajr, Allah me punit, c'est fini. Allah, quand il voit sa créature faire un péché, il ordonne aux anges, n'écrivez pas tout de suite. Attendez. Peut-être qu'il va demander Tawbah. Peut-être qu'il va se souvenir de moi. Et lorsqu'Allah Ta'ala, il voit que la personne ne demande pas, ne demande pas, ne demande pas, là, Allah Ta'ala ordonne aux anges d'inscrire le péché. Et lorsque le péché a été fait, Allah Ta'ala va envoyer des asbab pour qu'on puisse se faire pardonner, etc. Ça, c'est la rahmah. Comment Allah Ta'ala, il est miséricordieux. Et la suite du hadith, irhamu man fil ardi, irhamukum man fil sama. Ayez pitié pour les gens, et ceux qui sont dans les cieux auront pitié pour vous. Allah aura pitié pour vous, les malaïkas auront pitié pour vous, ils feront doua pour vous. Ça, c'est important. Que je gère l'extérieur, mais que je gère également l'intérieur. Parce que ce jour-là, personne ne vous aide. Au contraire, il y aura plus de gens qui vont essayer de grignoter, de rattraper des péchés avec vous, rattraper les erreurs que vous avez faites, plutôt que des gens qui seront là pour vous aider. Il y a des versets du Coran, là, je n'ai pas en tête. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. C'est quoi un cœur salim? Un cœur pur. لا ينفع يوم c'est quoi? يوم القيامة. لا ينفع مال ولا بنون. Ni vos biens, ni vos descendants ne vous seront d'une quelconque utilité. Il n'y a rien qui vous aide là. Même votre femme après 50 ans de mariage, ou le mari après 50 ans de mariage, le papa pour le fils, personne n'est là pour aider son prochain. Vous êtes devant Allah avec vos actions intérieur et extérieur. Il n'y a rien que ça. Qu'Allah nous protège et nous donne la possibilité de nous présenter auprès de lui et qu'Allah, le jour de la résurrection, sera, Inch'Allah, satisfait de nous. Je pense qu'on va s'arrêter là. On est à 36 minutes. Salih, bas. En fait, on n'a rien fait de nouveau là. On a fait un muraja, une rétrospective de ce qu'on avait fait depuis le début sur Wassama et Wafariq. Inch'Allah, khair, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on peut faire, après il y aura une réunion, donc on essaie de jongler aussi avec les autres engagements. La semaine prochaine, on va faire Wassama idat al-Raj'i, wal-Ard idat al-Sadr, et on va voir également une autre métaphore. Allah compare le ciel et la terre avec d'autres choses, et c'est des paroles tellement profondes en rapport avec le Coran, hein, par la pluie, par les nuages, il y a la vie terrestre, et par le Coran, il y a la vie spirituelle. Ah non, c'est des paroles, la méditer, Hajib, ça c'est la profondeur des paroles d'Allah Azza wa Jal, et on va essayer de s'attarder un petit peu sur ce magnifique verset oublié par les musulmans. Innahu la qawlul fasl, que le Coran est certes une parole décisive, c'est une parole tranchante. Les paroles du Coran sont profondes, sont précises, et cela tranche entre le vrai et le faux. Et on va voir comment profiter jusqu'à la mort du Coran. Très souvent, nous, dans notre enseignement, notre objectif est le suivant: enseigner aux enfants la lecture des lettres, puis les lettres collées, puis le amma, le dernier juz, et puis il rend le Coran. Au mieux, il va faire hafid le Coran. D'accord? Mais ce que nous devons faire comprendre aux gens également, c'est qu'on ne doit jamais s'arrêter d'apprendre le Coran. Même si je suis hafid, il y a encore à apprendre. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Pas lire comme Soudès, Shurem, Mu'inqili, c'est pas ça. Ça ne fera pas accéder au paradis, hein, de lire comme un grand qari. Non. On doit essayer maintenant d'apprendre les ma'anis du Coran, le sens et le message passé à travers le Coran. Le Coran n'a pas été révélé que pour être récité avec une belle voix. Si c'était le cas, ça aurait été que les qaris qui accéderont au paradis. Parce que ceux qui lisent bien, ben ils vont au paradis. Alors que l'Allah dit bien, le Prophète dit bien, pardon, celui qui lit avec difficulté, Allah lui donne double récompense. La deuxième partie de récompense, c'est quoi? C'est les difficultés. Ah, il bégaye, il reprend, il a du mal à lire, à faire les liaisons. Ça veut dire que ce Coran, l'objectif, ce n'est pas sa lecture avec la perfection. Non, vous lisez bien, tant mieux pour vous, alhamdoulilah. D'accord? Mais le but, c'est que chaque musulman ait une relation intime avec le Coran. On va voir comment le Mufassir explique qu'à chaque lecture, je dois être capable d'apprendre quelque chose de nouveau. Si quelqu'un est sincère dans sa lecture et il va à la recherche, vous ne lirez jamais le Surat al-Baqarah deux fois de la même façon. Assurément, Allah va vous faire voir des ma'ani. Allah va faire en sorte que vous voyez des choses que vous ne voyez pas avant. Je ne parle pas de science infuse, hein, non. C'est-à-dire que le sens qu'il y a dans le Coran, au fur et à mesure que vous allez le lire, en essayant de comprendre, d'analyser le tafsir, cela va enrichir votre iman. Et il n'y a pas meilleure manière d'avancer dans le din que par la compréhension du Coran. Je vous ai laissé deux choses. In tamassaktum bihi. Si vous restez accrochés, vous ne serez jamais garés. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kitabullahi wa sunnati. Qu'Allah nous accepte, moi en premier, après vous, Ben, tout en même temps, alors. D'un tawfiq de mettre en pratique, nous pardonne nos péchés, parce que les péchés, on en a jusque-là. On en a jusque-là des péchés. Et si Allah nous punissait pour chaque péché, lundi jusqu'au samedi, il n'y aurait pas un musulman sur la terre. Il n'y aurait pas un mukallif sur la terre. Parce qu'Allah nous aurait dit, tous ces sahaba, ce que nous, nous faisons, nous considérons comme petits péchés, les sahaba, à leur époque, les considéraient déjà comme des péchés majeurs. Alors franchement, il y avait une citation à un sahaba ou un tabi'in qui disait à propos d'une autre génération que si eux, ces sahaba nous voyaient vivre comme ça, c'est pas 2000, en 2010, hein, si les sahaba nous voyaient, nous, tabi'in ou tabi'in, vivre, se posent la question, est-ce que ce sont des musulmans ou des non-musulmans? Pour voir le décalage qu'il y a dans la pratique entre notre pratique du dîn et la pratique des sahaba, ceux qui ont eu, radiallahu anhu, donc, ne comptons pas sur nos actions. On les fait, mais à notre niveau, comptons sur la miséricorde d'Allah. Qu'Allah nous accepte.